Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, Science Publique, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Science Publique. Comme toujours, vos réactions sont vivement attendues sur le site de Science Publique au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Comment expliquer le réchauffement climatique au grand public? Aujourd'hui, nous allons parler d'une opération particulièrement originale. Il s'agit du train du climat. Cette exposition itinérante est partie de Paris le 6 octobre et elle va sillonner la France jusqu'au 25 octobre. Ainsi, le train du climat fera escale dans pas moins de 19 villes, un véritable tour de France de Paris à Nancy, en passant par Annecy, Marseille, Toulouse, Libourne, La Rochelle, Brest ou Lille. Aujourd'hui, le train du climat est à Montpellier, l'occasion de nous interroger sur son objectif, expliquer au grand public les notions fondamentales du réchauffement climatique. Bien entendu, l'opération s'inscrit dans la préparation de la conférence sur le climat, la COP21, qui se tiendra à Paris fin novembre. L'image d'un train parcourant la France pour apporter la bonne parole climatique est à la fois sympathique et problématique. S'agit-il d'une opération d'évangélisation militante, telle que le débat public sur les nanotechnologies en 2009 et 2010 l'a laissé penser? Comment rendre accessible une science, la climatologie, qui reste l'une des disciplines les plus jeunes, tout en étant confrontée à l'un des problèmes les plus complexes auxquels l'homme s'est attaqué? Le réchauffement climatique pose ainsi un double défi, scientifique d'abord et de communication ensuite. En effet, agir sur le climat est loin de ne dépendre que des seuls gouvernements, d'autant que les conférences internationales ont collectionné les échecs jusqu'à présent. Dans ce contexte, la mobilisation du public, sa capacité d'action sur le terrain et de pression sur le pouvoir politique apparaît comme une composante majeure du débat climatique. Le train du climat, avec ses messagers, peut-il contribuer à une véritable prise de conscience dans ce domaine ? Pour comprendre la démarche du train du climat et évaluer son impact potentiel, nous recevons dans Science Publique, depuis Montpellier, pendant l'étape du 12 octobre, les quatre initiateurs de cette opération. Donc nous recevons dans les locaux de France Bleu Hérault Christophe Cassou, climatologue, chargé de recherche CNRS au laboratoire Sciences de l'Univers, du Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique, le CERFAX, Catherine Jandel, océanographe et géochimiste, directrice de recherche au CNRS, au sein du Laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, le LEGOS, au sein de l'Observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse, Béatrice Cork est chef du projet Train du Climat, responsable de la médiation scientifique, ancienne directrice de la culture scientifique de Toulouse Métropole et du festival La Novella. Serge Planton est climatologue, responsable de l'unité de recherche climatique au Centre de recherche de Météo France. Et nous sommes également avec un chercheur de Montpellier, Frédéric Simard, entomologiste médical à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, et directeur de l'unité mixte de recherche maladies infectieuses et vecteurs, écologie génétique, évolution et contrôle. Frédéric Simard est un spécialiste du moustique tigre, originaire d'Asie et qui se propage en France depuis 2003, en servant parfois de vecteur à des maladies comme la dengue, le chikungunya ou la fièvre Zika. Il nous parlera de sa propagation et du lien qui peut pose problème entre cette propagation et le réchauffement climatique. On va d'abord parler du train. Catherine Jandel, bonjour.
Bonjour.
Alors ce train du climat, vous faites partie du petit groupe de 3-4 personnes qui étaient tout à fait à l'origine. Comment une telle idée a-t-elle pu germer ?
Voilà, l'idée a germé sur le simple constat en fait que la conférence qui va avoir lieu à la fin de l'année, au mois de décembre, était relayée à la fois à Lyon, à Paris, un petit peu à Marseille, et qu'il se passerait rien à Toulouse. Et dans la réflexion qu'on a menée un soir, devant une salade et un magret, avec Béatrice en particulier, on s'est dit que faire venir des conférenciers à Toulouse, qui est loin de tout et en particulier loin de Paris, ça serait les faire venir en avion et que c'était quand même pas tellement cohérent avec le réchauffement climatique. Et en fait, et que ce serait encore une conférence de plus. Et de là a surgi l'idée, mais si on y allait en train, et si on faisait le tour de France en train, et si on demandait à la SNCF de nous prêter un wagon, enfin on est parti dans un délire. Mais en fait, c'était pas du tout un délire parce que très très vite, très vite, on a contacté Serge et Christophe qui sont ici et qui ont tout de suite dit mais c'est une très bonne idée et en fait on a construit le projet, c'est parti comme ça.
Alors un projet dont on va mesurer un peu l'ampleur et qui donc est d'autant plus étonnant quand il est à l'initiative pris par des chercheurs au départ. Serge Planton, vous avez fait partie du trio de départ au niveau des chercheurs impliqués. Comment vous avez imaginé ça à l'époque? Est-ce que ça vous paraissait une idée qui avait une chance d'aboutir?
Il faut dire qu'au début, on ne se posait pas trop la question. En fait, on n'avait pas idée de l'ampleur, finalement, du projet, de ce que cela représentait. C'est toute l'idée, effectivement, comme l'a exprimé Catherine, c'était de faire connaître à un plus large public possible, et pas simplement, effectivement, depuis la capitale. Mais c'est aussi important de le faire, bien entendu, depuis la capitale, mais aussi de le faire à partir de villes de province. Et il nous avait semblé que, et assez évident après la proposition de Catherine, effectivement, sur laquelle Christophe et moi avons embrayé tout de suite, de faire cela par un voyage en train. Et on pensait à l'époque un train tout à fait ordinaire qui nous amènerait simplement de ville en ville, où on pourrait organiser des conférences comme on a l'habitude de le faire dans notre ville ou parfois d'ailleurs aussi à Paris.
Alors on va voir que ça a pris un tour assez différent et on va essayer de vous le faire sentir qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. Christophe Cassou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sorti donc par cette occasion de votre laboratoire pour prendre le train et rentrer en contact avec le public. C'est quand même une démarche qui n'est pas banale.
Oui, c'est une démarche qui est vraiment très originale. D'habitude, le chercheur est dans son laboratoire, on le contacte pour faire des conférences, pour faire des interventions. Et dans cette opération Train du Climat, en fait, c'est l'inverse. Le chercheur sort du laboratoire, va à la rencontre du public, à la rencontre des élus, à la rencontre des scolaires. Donc amène en fait explique la recherche sur le climat, comment elle se fait dans les laboratoires, pourquoi nous avons tiré, nous, communauté de climatologues, le signal d'alarme, et ensuite discuter, amener du débat avec le public sur les solutions possibles.
Alors on va voir comment ça s'est traduit, mais Béatrice Korg, bonjour.
Bonjour.
Donc on a vu l'idée de départ improbable, mais ensuite quel chemin pour arriver de cette idée devant un magret de canard, comme l'a rappelé Catherine Jandel, à ce train qui est aujourd'hui dans la gare de Montpellier, avec ses trois voitures d'exposition. Un sacré parcours entre les deux.
Absolument. Je voulais juste préciser quand même qu'à Toulouse, il y a une communauté de recherche et les trois chercheurs qui sont autour de la table le représentent bien, qui est déjà extrêmement mobilisée à Toulouse et sur le territoire, aussi du fait d'un festival qui s'appelait La Novella, qui depuis 6 ans mobilisait, hein, et vous participiez tous donc à cette mobilisation une fois par an d'aller à la rencontre des citoyens. Donc il y a déjà une culture qui existait. C'est vrai que c'était pas du tout ce qu'on avait imaginé au départ, et c'est la rencontre dans un premier temps avec la SNCF qui nous a orientés vers donc sa filiale événementielle, donc Train Expo, et il y a une vraie volonté politique de la SNCF de faire ce train. Le deuxième acteur essentiel qui nous a permis de monter le projet, c'est le ministère de la Recherche, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, excusez-moi, qui tout de suite a trouvé le projet formidable en amont de la COP. Dans le cadre de son opération, la recherche se mobilise pour le climat et nous leur avons proposé que cela soit l'opération nationale de la Fête de la Science en 2015. Donc il y a eu déjà ces acteurs de départ qui ont été absolument essentiels, et c'est vrai que le projet nous a après absolument débordé parce qu'on était une toute petite équipe et qu'à partir du moment où on était avec Train Expo, il a fallu monter une exposition, on y reviendra après, et donc préparer ce grand tour de France.
Voilà, on est passé en fait de cette idée d'aller faire des conférences un peu dans toute la France à mettre l'exposition dans le train et à faire rentrer les visiteurs dans cette exposition. Frédéric Simard, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes le chercheur de l'étape, on va dire, celui qui travaillait à Montpellier. Est-ce que vous avez déjà jeté un coup d'œil à vos trains et pour nous dire ce que vous en pensez?
Ah, bien sûr, je suis allé voir le train et c'est très 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 intéressant, et je remercie les instigateurs justement de ce train de l'avoir amené jusqu'à nous. Alors nous, On est des utilisateurs justement de ces scénarios qui sont modélisés par les climatologues pour en faire, pour voir comment ça va impacter les espèces sur lesquelles on travaille, comment on peut prévoir, organiser mieux la lutte contre les invasifs ou les vecteurs. Et donc on est très très demandeur de ce genre de mise à disposition des résultats et de communication autour de ces résultats, bien entendu.
Alors vous nous parlerez justement du lien entre le climat et le biologique, puisque vous voyez ce biologique à travers les insectes. Catherine Jandel voulait intervenir.
Oui, en fait, dès le début, quand on a commencé à essayer de se structurer, hein, parce que quand on se lance dans une aventure comme celle-là, la première chose qu'on a faite, c'est de rédiger un projet et de le soumettre à la labellisation, à un comité interministériel qui labellisait les projets de la conférence relatif à la COP21, et en particulier les projets de la société civile. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est que on est allé voir l'association Météo et Climat, qui nous a hébergés, et c'est-à-dire qu'en fait, ils nous accueillent, ce qui nous a permis de pas avoir à déposer un statut d'association et d'être relayés au niveau de la comptabilité, de pouvoir avoir un budget, etc. C'était important pour nous, c'était notre première structuration.
Voilà, alors partir d'une idée, et c'est la difficulté, c'est de la transformer en un projet qui devient... J'allais dire industriel, quoi. Ouais. C'est-à-dire qui a pris une ampleur considérable.
Et d'ailleurs, le projet du train du climat est parrainé par Jean Jouzel, qui est le président de l'association.
Béatrice Cork.
Je crois qu'après, on s'est tous mis autour de la table, chacun avec ses compétences. Le gros enjeu, c'était la traduction des connaissances très fines de chacun en langage, on va dire à la fois langage pour le grand public et surtout en objet culturel, à savoir une exposition. Et c'est vrai que c'était, je vous laissais la parole après, mais parce que ça m'intéresse aussi de voir ce que vous en retirez, tiens, j'en profite, de le traduire en exposition qui est un vecteur que les chercheurs ne connaissent pas de cette manière-là. Et c'est vraiment eux, l'exposition a été construite sur leur socle de connaissances, vraiment à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, où... quand on travaille dans le secteur culturel et qu'on monte des expositions, on construit un fil conducteur et on va voir des chercheurs pour qu'ils apportent des connaissances. Là, ça a été construit avec leurs connaissances.
Alors justement, les chercheurs, le problème, c'est souvent cette transformation d'un contenu scientifique qui, dans votre cas, est particulièrement pointu, qui n'est pas directement accessible par le grand public. Alors le traduire en une exposition destinée au grand public et en plus intégrée à un train, qui n'est pas le vecteur habituel de l'exposition, on imagine plutôt des espaces différents et un peu moins confinés la plupart du temps. Donc comment vous l'avez vécu, oui, de votre côté, en tant que chercheur participant à ce projet, Serge Planton?
Là, il s'agissait vraiment de communiquer à un très très large public, et en plus un public de tous âges, puisque le parrainage, enfin plus que le parrainage, le soutien du ministère de l'Éducation nationale a fait que cette exposition était ouverte à des classes, à des scolaires qui visitent le train et qui font partie, qui sont une constitution vraiment importante du public finalement auquel on est en contact. Donc effectivement, il a fallu au fur et à mesure faire évoluer notre discours, qui n'était qu'un discours ouvert vers une communauté qui était déjà, disons, ayant parfois une culture scientifique. Finalement, on partait de ce point de départ pour essayer de parler à un grand public qui, lui, n'avait absolument parfois aucune connaissance scientifique. Et la composition de notre groupe, formé à la fois de scientifiques et de non-scientifiques, a fait que dans notre fonctionnement propre, on a fait cette évolution progressive tout au long de la construction du projet. Nos textes ont été analysés, vus par les non-scientifiques qui ont fait des remarques qui parfois nous ont surprises, on pourrait prendre des exemples, et qui finalement, au final, on se rend bien compte que le résultat, le résultat d'une démarche qui nous a fait amener d'une communication scientifique vers une communication véritablement grand public.
Christophe Cassou, c'est toujours douloureux pour un scientifique de procéder à cette transformation d'un discours qui est très précis, très pointu, à quelque chose de comestible par le grand public. Il y a forcément des tensions, il y a des moments de tractation dont j'ai entendu parler. Par ailleurs, entre vous, les scientifiques, et puis ceux qui étaient là pour assurer cette médiation.
Oui, il y a parfois eu des échanges assez vigoureux, hein, des certaines soirées où on a passé 2-3 heures sur une phrase, deux phrases, 10 lignes, ou en se posant la question de qu'est-ce que ça veut dire, comment on exprime le message que l'on veut faire passer, comment on l'exprime simplement. Donc tout ça, ça a contribué, comme l'a précisé Serge, à une maturation de cette exposition. Et ce qui a conduit également, on s'est énormément posé de questions sur le fil conducteur de cette exposition. Parce qu'elle part d'une certaine logique, qu'il a fallu simplifier pour expliquer comment le chercheur, le climatologue étudie son domaine, hein, étudie cette superbe machine climat, hein, sur la Terre, et comment cette compréhension permet d'aboutir à des débats sur les solutions.
Alors Catherine Jandel, une des contraintes, c'est le train. Parce que ce qui est original aussi, c'est que ce n'est pas une exposition qui a été entrée de force dans un train, elle a été conçue pour un train avec des voitures, plusieurs voitures, trois en la circonstance, qui permettent de faire un parcours que le visiteur suit naturellement en traversant ces trois voitures.
Tout à fait. Alors, Christophe vient de le dire, hein, d'une part, il fallait avoir un fil cohérent. C'est le cas là. On a trois parties dans cette exposition qu'on a articulées le mieux possible. Après, l'exercice du train, c'est, comme dans beaucoup d'expositions, déjà, c'est très peu de texte. Et moi, j'ai pas souffert, pour reprendre la question qui a été posée tout à l'heure. J'ai adoré qu'on me dise tu as 400 signes pour exprimer ça, tu as 300 signes, là t'en as 900, ça faisait un petit peu plus. Alors ce qu'on appelle des signes, hein, ça veut dire le nombre de caractères, blanc compris, pour raconter telle ou telle chose.
Donc, tout le contraire d'un article scientifique qui prend beaucoup de place, ou d'un livre même.
Aussi en nombre de cycles. Les articles scientifiques peuvent être limités en nombre de signes, on doit
mais
faire
pas
des
à 400.
Résumés. Mais pas à 400. Non, pas à 400 en même temps. Et en fait, ensuite, ce qui a été très très intéressant, c'est la collaboration avec l'agence de scénographie Carte Blanche, qui nous a renvoyé à, une fois qu'on avait nos signes, notre fil d'exposition, bon, mais après il fallait faire quelque chose de beau et quelque chose d'agréable et d'extrêmement démonstratif. Et alors là, on a enchaîné, là c'est une vidéo, là c'est plutôt, on va le disposer comme ça, tel objet on va le mettre comme ceci, etc. Et alors là, ce dialogue pour moi c'était fascinant parce qu'ils ont transformé nos idées, nos acquis scientifiques très très sérieux et les plus rigoureux possibles, hein, parce qu'on s'est quand même attaché à garder une rigueur, bien qu'on ait simplifié les mots, en quelque chose de très accessible pour le public. Et ça, c'est ce que nous disent les gens quand ils visitent l'exposition. Donc c'est vraiment, on peut vraiment les remercier parce qu'ils nous ont propulsés, quoi, dans une autre planète.
France Culture, Science Publique, Michel Albert-Gonti.
Comment expliquer le réchauffement climatique au grand public? C'est le sujet de notre émission aujourd'hui avec nos invités, Christophe Cassou, climatologue, Catherine Jandel, océanographe et géochimiste, Béatrice Cork, responsable du projet Train du Climat, Serge Planton, climatologue à Météo France, et Frédéric Simard, entomologiste médical à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD. Un mot, justement, un témoignage quand même de Béatrice Cork qui a été au centre de cette discussion, de ces échanges, etc., qui ont fait passer le savoir scientifique du laboratoire des chercheurs dans le Train du Climat, sous une forme entièrement nouvelle.
Oui, je crois que la grande nouveauté, c'est que tous les contenus viennent vraiment des scientifiques. Et on le voit dans l'exposition, c'est-à-dire que l'exposition, et en ça c'est une très grande réussite, l'exposition leur est parfaitement adaptée. C'est un vêtement à leur taille. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans l'exposition est un support pour organiser cet échange avec le public. Et c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que l'enjeu de ce train, c'est le contact direct, hein, donc il y a en permanence 12 chercheurs à bord. Et les expositions traditionnelles, on les visite seuls. Là, cette exposition est visitée avec les chercheurs. Et du coup, vraiment, tous les contenus les aident à créer cette mise en relation. Et en ça, c'est, je pense, quelque chose d'extrêmement nouveau.
Voilà, les trois chercheurs fondateurs, finalement, de cette opération sont tous les jours, ou presque, en fait, il y a un petit relais, mais il y en a qui, visiblement, vont y passer pratiquement les trois semaines, sont là pour accueillir les visiteurs, effectivement, et les accompagner dans ce parcours à travers ces trois voitures. Et c'est ça qui est probablement assez unique dans l'histoire de la transmission de la science au grand public, que d'avoir, comme vient de le dire Béatrice Cork, 12, en fait, des vagues de 12 chercheurs qui se succèdent, et au total, une quarantaine vont participer. et auront fait ce que Christophe Cassou nous racontait tout à l'heure, c'est-à-dire sortir de leur laboratoire, aller dans ce train et répondre aux questions du public. Serge Planton voulait intervenir.
Oui, justement, c'était à propos de ces chercheurs qui sont à bord, puisque au-delà de l'exposition, au-delà de la traduction en mots, finalement, de contenu scientifique, ce ne serait pas suffisant s'il n'y avait pas cette étape supplémentaire de réinterprétation avec le public et avec les questions du public. Parce que c'est ce que permet l'échange, c'est que justement, on peut se focaliser sur les questions qui sont posées par le visiteur lui-même. Et donc, le fait qu'il y ait 40 scientifiques à bord, qui soient de différentes disciplines, permet aussi d'approfondir des questions que se pose le public. Et parfois, ça peut aller très très loin, finalement, dans la démonstration. Et on échappe évidemment au simple contenu de l'exposition pour avoir un véritable échange avec le public.
Catherine Jandel.
Cet échange, il est particulièrement important dans la troisième partie de l'exposition. Les deux premières sont consacrées à la compréhension du rôle de l'homme par rapport à la variabilité naturelle du climat. Quelle a été, on ne va pas parler de valeur ajoutée, mais quel a été le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique. La deuxième partie de l'exposition est consacrée aux effets de ce réchauffement climatique si on ne change rien dans nos modes de vie. Et la troisième a été essentiellement montée par une équipe du CIRED de 8 personnes qui, de 8 CIRED, jeunes chercheurs, donc, à le Centre international de recherche en économie du développement. Et donc, cette équipe a construit une zone dans laquelle on débat des solutions. Mais on ne met pas les solutions clés en main. Ce sont des solutions sur les enjeux autour de l'agriculture, l'énergie, les transports, le bâtiment, tout ce qui peut dans le futur nous aider, ou dès à présent d'ailleurs, nous aider à lutter contre le réchauffement climatique, est débattu avec des questions qui sont posées autour duquel il peut y avoir les pour, les contre. Et cet espace est particulièrement ouvert et construit pour que ce soit un espace de débat.
Je voudrais quand même avoir la réaction de Frédéric Simard, qui, lui, est confronté à, sans doute aussi, dans son domaine, la nécessité de faire comprendre ce qu'est le réchauffement climatique et aussi faire le lien. Et là, vous, avec un domaine qui n'est pas forcément le plus représenté dans le train, qui est la biologie, voir l'impact sur la biologie, comment vous abordez cette problématique de la transmission de ces notions au grand public?
Eh bien, nous aussi, notamment dans le cadre des fêtes de la science, on contribue également à cet effort de communication avec le grand public. Et je voudrais féliciter mes collègues ici présents, parce que c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile à faire pour un chercheur. Et on se retrouve confronté à des questions auxquelles on n'a pas forcément pensé, ou c'est pas sur certains petits détails qui pour nous paraissent évidents. Ben c'est là que les gens vont bloquer un peu plus, et c'est pas évident de leur faire comprendre en langage simple, les résultats ou les questionnements qu'on a aux termes scientifiques. Alors moi, j'ai pas participé à cette élaboration du train du climat, mais je m'en sers justement pour faire passer des messages, notamment sur l'impact des changements globaux, parce que j'aime pas totalement, et on pourra en discuter, le terme de réchauffement climatique. Le changement climatique, pour moi et pour les moustiques, si on peut en parler, c'est beaucoup plus global que juste quelques degrés en plus, même si c'est ça qui fait peur aux gens. Et donc, d'avoir déjà cet aspect changement climatique qui est bien expliqué aux gens nous permet, nous, ensuite, de prendre la suite pour expliquer mieux les impacts de ce changement sur différents domaines. Alors moi, c'est la santé humaine, avec les problématiques d'invasion de moustiques, par exemple le moustique tigre qu'on a ici en ce moment, et puis les problèmes d'impact sur de la transmission dans des endroits où on a de la transmission en ce moment, ou dans des qui pourraient éventuellement disparaître.
De la transmission, vous voulez dire?
De la transmission d'agents pathogènes, de virus ou de parasites. Hein. On parle du moustique tigre avec la dengue, le chikungunya ou la fièvre Zika, comme vous l'avez mentionné. Mais il y a beaucoup de moustiques qui transmettent beaucoup d'autres pathogènes. Il n'y a pas que des moustiques non plus. Et toutes ces petites bêtes qui, elles, sont des organismes qui sont incapables de réguler leur température interne, vont dépendre des variations environnementales, bien entendu.
D'où des transferts de population également entre différentes zones.
Tout à fait.
Et la difficulté, on peut peut-être en dire un mot, de savoir, et ça fait partie de la difficulté de transmission au grand public, comment attribuer certains phénomènes au réchauffement ou pas, c'est une question qui revient sans cesse et qui est au cœur de l'actualité, c'est-à-dire de 2015. Je pense que peut-être dans 50 ans, on se posera plus cette question-là et on sera beaucoup plus en prise directe avec ce qui se passe et qui est en lien. Mais aujourd'hui encore, j'imagine que la question peut se poser par rapport à la part des visiteurs, Serge Plonton.
Oui, effectivement, cette question de l'attribution, qu'est-ce qu'on peut véritablement attribuer aux activités humaines? Est-ce que, par raccourci, on appelle le changement climatique? Effectivement, si on sait le faire de manière très claire pour l'évolution de la température sur une tendance d'une cinquantaine d'années, il est beaucoup plus difficile de le faire, à la fois sur des événements extrêmes climatique ou météorologique particulier, et aussi sur les effets du changement climatique lui-même. Donc c'est un exercice auquel les scientifiques du GIEC se sont pliés en essayant de recenser toutes les études qui concernent justement l'attribution des effets du changement climatique sur certains impacts, effets, on devrait dire d'ailleurs, effets plutôt que impacts. Et donc le compte-rendu de leurs résultats, c'est de dire qu'il y a aujourd'hui des études qui commencent à émerger, qui sont capables de faire ce lien, à condition que cet effet particulier, cet impact particulier soit lui-même directement relié au climat. Si on sait faire ce lien déjà entre le climat et finalement l'objet d'étude, bien dans ce cas-là, il est beaucoup plus facile, beaucoup plus aisé de faire le lien avec le changement climatique, ce qui a changé dans ce climat et qui peut entraîner des changements dans ses effets. Mais ce lien n'est pas toujours encore clairement établi et des recherches doivent encore être menées dans ce domaine-là.
Frédéric, si je peux juste intervenir, effectivement, tout ça est très juste et les effets vont être différents. Si on parle d'effets totalement physiques, par exemple, la fonte des glaces, la température fait fondre les glaces qui va faire augmenter le niveau des mers, ça, c'est relativement évident à comprendre. Un impact sur quelque chose de biologique est beaucoup plus difficile à prendre en compte, puisque beaucoup plus complexe. Les êtres vivants ne sont pas statiques, ils évoluent dans le temps, ils vont s'adapter à ce changement climatique. Et on ne peut pas envisager que les êtres vivants, on connaît leur réaction face à des températures actuellement, leur gamme de réaction, ça va évoluer dans le temps. Donc il y a un deuxième niveau de complexité qui s'ajoute aux incertitudes éventuelles sur les différents scénarios du changement climatique.
Alors une des difficultés qui apparaît quand on visite l'exposition en matière de transmission au grand public, c'est ce qui revient souvent dans le discours des chercheurs comme vous, c'est la variabilité naturelle du climat. Il faut reconnaître que c'est une expression qui est extrêmement prégnante dans l'exposition et qui n'est pas forcément la notion la plus simple à transmettre au grand public, Christophe Cassou.
Oui, variabilité, c'est le mot jargon du climatologue. On peut parler de fluctuation climatique. Donc cette variabilité climatique, elle est naturelle dans le sens où l'atmosphère, l'océan, tous les milieux, toutes les composantes du système climatique agissent entre elles et produisent des fluctuations qui peuvent être d'une année sur l'autre, d'une décennie sur l'autre, d'un siècle sur l'autre. Et ces fluctuations sont complètement naturelles, ne sont pas affectées par l'activité humaine. Mais ces fluctuations naturelles, en fait, se superposent à l'activité humaine. Donc l'activité humaine tend à réchauffer l'atmosphère, donc la température est un des indicateurs de ce changement climatique, mais cette activité humaine tend donc à réchauffer l'atmosphère. On a pris à peu près 1 degré depuis un siècle. C'est très compliqué pour le public, pour le citoyen, de comprendre cette variabilité qui se superpose à cette
voilà, ce deux phénomènes. La superposition dont vous parlez peut avoir un effet d'annulation d'une évolution par une autre qui est simultanée.
Oui, exactement. On dit que le climat se réchauffe, mais le public a tendance à croire que chaque année sera plus chaude que l'année précédente. C'est donc une augmentation linéaire, comme on appelle dans le jargon. En fait, c'est pas du tout le cas. Il peut y avoir des années plus chaudes suivies d'années plus froides. Et ces années plus froides correspondent à de la variabilité naturelle du climat.
Catherine Jandel, là, on touche à cette complexité que vous avez attaquée de front avec cette exposition en disant, bon, on va quand même essayer de l'expliquer au grand public. Et c'est ce qui transparaît dans les panneaux qui ont été faits pour l'exposition. Et c'était quand même un sacré défi.
Ah oui, tout à fait, parce que quand on reçoit les groupes, déjà quand même, il faut savoir que la première chose que je fais, moi, mais je crois que mes collègues aussi, c'est de leur demander quelle classe, quand ce sont des scolaires, et d'essayer de sonder en deux, trois questions les connaissances pour se mettre tout de suite. Il m'arrive d'expliquer des choses ultra simples dès le départ pour bien montrer, si je dois parler de la fameuse variabilité climatique, je dis, il y a eu des périodes froides, vous savez qu'il y a eu des il y a eu une glaciation, à une époque la glace venait en Bretagne, etc. Oui, alors là les gens commencent à réagir en disant oui, effectivement ils ont appris ça à l'école. Et donc en réveillant tous ces souvenirs-là, et en montrant grâce à la carotte glaciaire, c'est-à-dire à l'objet qu'on montre, ou bien au tronc d'arbre, etc., qu'il y a eu des années plus humides, des années plus sèches, on les fait rentrer progressivement dans le fait que les archives naturelles, c'est-à-dire un sédiment, une carotte de glace ou un tronc d'arbre enregistre ces moments un peu plus chauds, un peu plus froids, et qu'il y en a toujours eu. Et ce qui compte, c'est de dire qu'il y en a toujours eu. Et après, on dit juste que quand, si on n'avait pas eu l'informatique, et ça on le dit vraiment très clairement, on n'aurait pas pu modéliser toute cette fluctuation naturelle pour pouvoir détecter la chose qui a été ajoutée par l'homme, c'est-à-dire le réchauffement.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Albert-Gonty.
Comment expliquer le réchauffement climatique au grand public? C'est justement la question dont nous débattons aujourd'hui avec nos invités, Christophe Cassou, climatologue, Catherine Jandel, océanographe et géochimiste, Béatrice Cork, responsable du projet Train du Climat, Serge Planton, climatologue à Météo France, et Frédéric Simard, entomologiste médical à l'IRD. Alors, Béatrice Cork, justement, une des caractéristiques aussi de cette exposition, et c'était ce que j'ai essayé d'introduire un petit peu dans l'introduction, c'est qu'elle échappe à un des travers possibles qui était le sentiment pour les visiteurs d'être face à quelque chose de militant, et d'être donc amené à penser un petit peu de façon très incitative que voilà la vérité et voilà ce qu'il faut penser et voilà comment il faut agir. Or, c'est justement là aussi une originalité de l'exposition de ne pas prendre ce chemin.
On n'est pas dans la question militance ou pas militance, je veux dire, il y a des faits. Comme l'a décrit Catherine, la question de la variabilité naturelle, de l'action de l'homme, aujourd'hui sont des faits avérés. Donc, la question ne se pose pas. Ce qu'il faut, c'est en expliquer les mécanismes de la manière la plus claire. Ensuite, les scénarios possibles, ce sont aussi, aujourd'hui, les différentes pistes de travail, donc le travail des scientifiques. Donc là, de la même manière, c'est expliquer aux gens les différents chemins possibles. Quant à la voiture 3 de l'exposition, et ça c'est là où effectivement il y a eu un gros travail qui a été fait entre nous et avec les chercheurs du CIRED, la recherche ne donne pas de solution. La recherche travaille sur les possibles et le champ des possibles. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment tout l'enjeu de la construction de cette voiture 3, c'était de dire il faut donner au public, quel que soit son âge, quel que soit le background de connaissances qu'il a, la compétence de s'interroger. Et de dire qu'il y a un certain nombre, puisque nous sommes donc dans cette voiture, dire comment on recrée un nouveau modèle avec un certain nombre d'outils, d'ingrédients, comme une recette de cuisine qui touche la question des énergies, de l'industrie, du bâtiment, de l'équité et les questions politiques, parce que ça c'est essentiel. Je veux dire, le réchauffement climatique n'est pas qu'une question d'environnement, comme le dit François Gémen dans une interview, c'est une question liée aux inégalités planétaires, donc c'est d'intégrer tous ces facteurs-là et de dire, voilà, vous allez avoir un temps où vous allez pouvoir en discuter et comprendre les ingrédients pour construire un modèle. Donc il n'est pas question de militance, il est question de donner aux gens des éléments pour s'approprier ces questions et savoir comment s'en emparer.
Frédéric Simard, est-ce que cette façon de présenter les choses vous paraît être par exemple efficace aussi vis-à-vis des autorités? J'imagine que dans votre domaine, il faut convaincre aussi qu'il peut y avoir un problème et peut-être de prendre des solutions, choisir des axes d'action. Est-ce que vous en tirez quelque chose de cette façon-là de présenter les choses?
Ouais, c'est exactement la même manière qu'on a de procéder. Comme ça vient d'être dit, la recherche n'a pas vocation à proposer des solutions, mais à donner les éléments au public comme aux décideurs pour trouver la manière de mettre en cohérence tout ça et trouver des solutions à ce problème de changement climatique et à toutes ces retombées, que ça soit en santé ou comme on l'a vu comme on a entendu, en termes d'aménagement du territoire ou de choses comme ça. Donc on est exactement sur la même longueur d'onde. On doit donner des éléments, parce que nous, en tant que chercheurs, on a toujours un regard très biaisé des choses qu'on fait. On est plutôt des spécialistes que... Donc on n'est pas forcément non plus au contact de tous les blocages qu'il peut y avoir pour la mise en place d'une solution. Et on a besoin que tout le monde contribue, le public comme les gens en charge de responsabilité, à trouver, à mettre en place des solutions qui passent par tout le monde.
Alors Christophe Cassou, il était le premier à lever la main, donc
la parole. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, le chercheur a un devoir d'objectivité et d'impartialité. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que ce train a été construit. Il s'agit de donner en fait l'état des connaissances, les connaissances au public pour que le public s'approprie ces connaissances et ensuite puisse agir. Donc c'est vraiment le fondamental de cette activité.
Catherine Jandel.
Oui, alors en fait, ce qui est très intéressant par rapport à la prise de conscience que la façon d'évoluer, de transformer, de réagir et de trouver des actions par rapport à la question du réchauffement climatique, il n'est absolument pas rare que l'individu, et en particulier le jeune individu, nous dise « mais moi, qu'est-ce que je peux faire ?» Et en fait, en quittant l'exposition, je crois qu'il a en main les éléments de réflexion pour se dire bah, « tiens, je dois pouvoir faire ça ». C'est-à-dire, il a pris conscience, puisque effectivement, on le sait, hein, on leur explique qu'il ne faut pas tout attendre des gouvernants. Ça, par contre, c'est quelque chose que l'on dit, parce qu'on pense que c'est vraiment important. Et ensuite, après, comment se prendre en main, comment agir ? Eh bien, c'est un choix individuel. Et c'est devant ce choix individuel qu'on les laisse. Mais on leur donne la matière pour être cultivé et avoir la capacité à poser cette question.
Serge Planton avant Béatrice Koch.
Oui, dans le prolongement de ce qui a été dit, en fait, cette démarche-là, qui est la démarche des scientifiques qui ne sont pas prescripteurs, en fait, de solutions, la proposition, au contraire, de tout un éventail de solutions qui sont possibles, et par contre, faire aussi sentir que ces solutions sont en interaction les unes avec les autres, cette démarche-là, c'est pas nous, évidemment, qui l'avons inventée, c'est déjà complètement la démarche qui est utilisée par les experts du GIEC, qui est également dans leur rapport, prennent en compte des ensembles de solutions et parfois des solutions que certains ne sont pas prêts à adopter lorsque, par exemple, le rapport traite de captation du carbone ou de géo-ingénierie. On est parfois interrogé le fait d'en parler peut être interprété comme le fait que le GIEC recommande ce type de solution, alors que ce n'est pas du tout la démarche. La démarche scientifique, c'est d'examiner quelles sont les conséquences de ces solutions qui seraient adoptées par des politiques et en toute indépendance, évidemment, des travaux des scientifiques.
Béatrice Koch.
Je crois que dans la multiplicité des acteurs impliqués dans les questions de réchauffement, enfin de changement climatique, on a besoin d'avoir des référents. Parce que quand on est jeune, quand on est moins jeune d'ailleurs, on est confronté à des informations multiples qu'on va chercher dans les différents médias, les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il y a à la fois une difficulté à appréhender les sujets et à savoir à qui se référer. Et il me semble que ce qui est très important là, effectivement, dans le travail qu'on fait, mais de manière générale, c'est de bien affirmer, de restaurer aussi dans certains cas, et d'affirmer cette confiance qu'il faut avoir dans les scientifiques. Aujourd'hui, les scientifiques qui travaillent sur les sciences du climat sont en situation de délivrer les connaissances les plus objectives sur le climat. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de repositionner clairement les scientifiques au cœur de cette confiance. Et moi, je le vois dans l'expo, quand les jeunes en sortent, le fait d'avoir discuté avec des chercheurs, ça les rassure. Et moi, il y en a qui m'ont dit, mais c'est des vrais chercheurs. Je dis, oui, c'est des vrais chercheurs. Et ça pose, on peut faire confiance. Et je crois que c'est extrêmement important sur le sujet.
Alors, une des caractéristiques de cette exposition dont on n'a pas parlé, c'est aussi la diversité des disciplines. Ce n'est pas que des climatologues, même si nous avons un climatologue ici, ou même deux ou trois. En fait, tout le monde, finalement, finit par être climatologue, même en partant de sa discipline, ouais. Quand il élargit le spectre un petit peu. Mais il y a aussi des économistes, il y a des disciplines très différentes. Et Frédéric Simard, je voulais savoir si vous ressentez justement que la question climatique induit forcément et nécessairement de diversifier les compétences et d'associer des disciplines qui, peut-être dans d'autres situations, n'ont pas autant besoin de se rapprocher.
Oh bah oui, c'est changement global. Donc effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, ça implique de nombreux domaines et c'est pas seulement une histoire d'augmentation d'un ou deux degrés. C'est une histoire d'inégalité, c'est une histoire d'accès à différentes aux soins, par exemple. Tout ça va contribuer à notre capacité à subir le changement climatique ou à pouvoir proposer des solutions et s'adapter à ce changement climatique. Et donc ça doit mobiliser absolument tout le monde. Il y a ceux qui vont travailler à l'établissement des scénarios, donc ça, effectivement, c'est en majeure partie des climatologues, parce qu'on a besoin de ces compétences-là, de savoir de quoi on parle quand on parle de température, de fluctuations. Mais on a aussi besoin de tous les gens qui travaillent sur des problématiques plus ou moins liées à ça, soit en aval, quelles sont les causes de ce changement climatique, et en amont et en aval sur les conséquences de ce changement et comment les juguler, comment les prendre en compte. Donc effectivement, ça implique tout le monde.
Alors Serge Planton, comment êtes-vous arrivé justement à ouvrir un petit peu le spectre des disciplines concernées à partir d'une discipline qui est celle de la modélisation du climat, donc quelque chose d'assez, qu'on appelle en général les sciences dures, et on voit que là, d'autres domaines de la science moins durs ou plus molles, ça dépend comment on les décrit, sont convoqués également.
Oui, alors c'était déjà un petit peu plus facile avec des chercheurs qui travaillaient toujours sur le domaine physique, on va dire, qui étaient déjà dans les effets du changement climatique, qui ne sont pas nos domaines de spécialité. Donc effectivement, par l'habitude aussi de contribuer à des projets dans lesquels ces disciplines sont convoquées pour quand même aussi étudier les effets du changement climatique, on a des habitudes de travail avec un certain nombre de spécialistes de différents domaines, que ce soit dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de l'étude des glaces, de l'hydrologie. Donc de ce fait, il a fallu les consulter effectivement pour obtenir des contenus de leur part pour pouvoir alimenter l'exposition et puis pour les solliciter pour aussi être présents, parce que l'interaction avec aussi des chercheurs de ces différents domaines de spécialité était absolument nécessaire. Donc on a consulté nos listes de contacts et qui provenaient d'habitudes qui étaient prises aussi dans des projets déjà existants, des projets scientifiques où on s'ouvre aussi maintenant vers les sciences moins dures. Et il y a aussi des projets scientifiques qui, avec des spécialistes des sciences humaines et sociales et également, donc ces projets aussi nous aident effectivement à avoir au moins une perception en fait, des préoccupations de ces autres disciplines.
Catherine Jandel.
Oui, alors ce qui est très intéressant dans cette démarche d'ouverture, pas que d'ouverture, parce que je pense vraiment qu'aujourd'hui, toute la question sur les solutions appartient justement au domaine des personnes qui travaillent là-dessus et des recherches qui sont menées là-dessus, et en particulier en économie et en travail sur l'énergie, sur l'évolution de nos sociétés. Mais un des points qui, personnellement, j'ai envie d'en parler, m'a beaucoup, beaucoup fasciné, c'est le recul de l'histoire. Et le recul de l'histoire, on en parle dans l'exposition. Et en quelques mots, un historien qui s'appelle Jean-Baptiste Fressos explique aussi comment le choix du charbon, le choix du pétrole n'était pas un choix naturel au début du développement de l'ère industrielle, où il y avait déjà beaucoup d'énergies renouvelables qui étaient présentes et qui étaient en développement. Et ça a été un choix qui a été fait par certains pays et que par deux pays, en fait, uniquement, parce qu'ils en avaient du charbon et pour dominer le monde. Et c'est intéressant de voir ça parce que on culpabilise beaucoup la société. Les gosses nous disent « Ah, mais c'est nous, alors c'est de notre faute !» Je leur dis « Vous êtes des êtres humains, vous avez besoin d'énergie pour vivre, donc c'est normal que vous ayez une consommation d'énergie qui rejette du gaz carbonique. Il faut choisir d'autres solutions pour pas rejeter de gaz carbonique. Mais regardez, le monde dans lequel vous êtes aujourd'hui, ça a été un choix délibéré, alors qu'on connaissait déjà l'effet de serre et qu'on connaissait déjà les effets néfastes sur la santé du charbon. Donc, ces choix... c'est intéressant aussi pour en parler avec les élus, parce qu'on sait aussi que finalement, on est aujourd'hui au seuil de transformation de la société qui peuvent reposer sur d'autres choix que ceux qui ont été faits. Et donc, on doit pouvoir faire bouger les choses, ce qu'on n'a pas fait avant.
Béatrice Cork.
Oui, ce recul de l'histoire, il est extrêmement important. Il est à mesuré aussi dans ce qu'il a de questionnant. Hein. C'est-à-dire que, en l'occurrence, Jean-Baptiste Fressoz interroge aussi un certain nombre de choses sans être dans des affirmations rigoureuses. Mais c'est vraiment important et on a vraiment souhaité avoir ce recul de l'histoire avec aussi Emmanuel Garnier, par exemple, qui reproblématise, on va dire, une histoire qui serait une histoire climatique dans la suite d'Emmanuel Laura Ladurie. De comprendre que nous ne sommes pas en train de vivre quelque chose qui est une génération spontanée depuis ces 30 dernières années, mais que ça s'inscrit effectivement dans des temps plus longs. Ouais. Et ça, c'est très important aussi pour le public, parce que d'une certaine manière, j'ai envie de dire, moi, en tant que public, c'est rassurant. C'est-à-dire que c'est à la fois inquiétant, mais c'est rassurant. C'est de se dire que, voilà, on a aussi le temps, du coup, de
voilà, donc c'est peut-être aussi la possibilité pour le public et pour les enfants de sentir qu'il y a une action possible à l'intérieur de la société et que c'est simplement le résultat aussi d'une prise de conscience et de volonté d'agir. Et on peut se demander également si les enfants, les adultes aussi qui visitent l'exposition ne sont pas, parce que quand même ce que vous montrez n'est pas très rassurant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de catastrophisme? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se sentir effectivement dans une situation sans issue, enfin, ou du moins avec une issue forcément fatale, Serge Planton?
Oui, alors pour ça, il y a un petit procédé dans l'exposition, quand on fait la transition entre la voiture qui vient de parler finalement d'un scénario qui est un scénario, non pas un scénario catastrophe, mais un scénario qu'on a appelé scénario du laisser-faire, qui est la continuation finalement des émissions, ce que l'on connaît actuellement depuis quelques dizaines d'années et qui conduirait à un réchauffement important de l'ordre de 4 degrés. Eh bien, quand on passe à la transition vers la troisième voiture, au contraire, on va considérer le scénario qui serait le scénario, on va dire, du succès de la COP21 et de ses suites. Eh bien, on a un petit passage dans lequel, effectivement, si on se trompe, on peut être face à un mur qui présente des catastrophes, et des catastrophes qui ne sont pas la réalité. Effectivement, il y a plusieurs façons ensuite d'interpréter le fait que de se trouver face à ce mur, comment l'interpréter. On peut dire que finalement, avoir une vision catastrophique de la situation, finalement, ça peut conduire à l'inaction. Et finalement, ce n'est pas la bonne démarche, effectivement, à adopter. Et tout au contraire, il vaut mieux avoir une position un petit peu moins radicale et s'orienter vers cette troisième voiture qui va nous proposer de discuter de différentes solutions. Donc, dans l'exposition, on a effectivement une impasse avec un mur qui présente des images de films qui sont bien connus, comme Le jour d'après, par exemple, où on présente une réalité qui n'est pas celle à laquelle nous, scientifiques, on pense, mais qui renvoie à cette idée de catastrophisme et de fascination pour la catastrophe, qui est une idée du groupe.
Christophe Cassou.
Moi, j'aime bien dans l'exposition une certaine manière de la présenter. C'est de la présenter comme un voyage en fait dans le temps. On commence à moins un million d'années, on contracte le temps, on arrive à la dernière glaciation, puis on arrive aujourd'hui où là, on explique donc l'effet des activités humaines. Puis on rentre dans ce 21e siècle avec tout ce champ des possibles. Et on a donc ces deux voies, ce scénario du laisser-faire et ce scénario plus de degrés, comme vient d'en discuter Serge. Moi, ce que j'aime bien, l'image que je prends quand je fais la visite de l'exposition, c'est le retour en arrière dans le temps. C'est-à-dire que je prends ce scénario du laisser-faire, on explique les effets d'un réchauffement de 5 degrés sur la France, sur le monde, et après on revient dans le temps pour revenir en 2014, 2015, et à partir de cette date-là, on a ce champ des possibles qui s'ouvre, et ces solutions, ces discussions, ces débats sur quelles ficelles en fait on va tirer pour notre société et pour le prochain siècle.
Oui, il faut quand même préciser que dans cette partie de courbe entre le scénario du laisser-faire, le scénario vertueux, on va dire, aujourd'hui, les chiffres sont déjà marquants sur la mauvaise courbe. Les chiffres réels s'inscrivent sur cette mauvaise courbe, celle du laisser-faire.
Oui, alors on a énormément discuté sur cette appellation scénario du laisser-faire. En fait, les scénarios qui ont été étudiés dans le GIEC, dans le dernier rapport, ont été réalisés en 2005. Et donc entre 2005 et 2014, on a à peu près 10 ans, où l'on peut regarder en fait quelle ficelle, quel scénario on a tiré, nous, notre société humaine. Et on voit qu'on a tiré le scénario pour le moment qui conduit à un réchauffement de température de l'ordre de 5 degrés.
Voilà, on est exactement sur cette courbe-là, ce qui n'est pas très étonnant dans la mesure où, comme je l'ai laissé entendre, il y a quand même eu une vingtaine de conférences internationales qui ont échoué jusqu'à présent, ce qui prouve que la prise de conscience et l'action gouvernementale au niveau international n'est pas encore totalement en marche. Catherine Jandel.
Oui, alors quand on dit 5 degrés juste, c'est d'ici à la fin du siècle, si on ne change pas de mode de vie. Et lorsque l'on dit 5 degrés, il arrive qu'on nous dise, mais c'est pas beaucoup. C'est vrai que ça paraît pas beaucoup, entre 20 et 25 degrés. Et en fait, c'est l'écart à peu près d'une période glaciaire, une période interglaciaire. Donc en termes de bouleversement pour la planète, c'est beaucoup.
Voilà, et ça c'est aussi la perspective historique qui permet de mettre en regard les deux situations. Christophe Cassou.
Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Catherine, en fait 5 degrés en soi, le chiffre n'est pas très important en soi. Ce qui est très important, ce qui est alarmant, c'est la vitesse du réchauffement.
Ouais.
Donc la sortie, quand on sort d'une période glaciaire, on prend 5 degrés à peu près en 10 000 ans. Là, on parle de 5 degrés en 100 ans. Et donc c'est 100 ans qui est important.
C'est l'accélération.
C'est l'accélération, ce n'est pas forcément la valeur en tant que telle du réchauffement.
Serge Planton.
Oui, c'est ça. C'est finalement, il y a deux caractéristiques à ce scénario du laisser-faire. C'est à la fois qu'il soit sur une période de temps courte. Donc, cette période de 10 000 ans comparée, en fait, si on rajoute la période pré-industrielle, donc on est sur 250 ans de réchauffement. Et puis, par ailleurs, le fait qu'il soit d'origine humaine, d'origine anthropique. Ce qui le distingue de tout ce dont on a parlé auparavant dans l'exposition et qui sont les facteurs naturels d'évolution du climat, variabilité solaire et autres facteurs naturels.
Alors Béatrice Cork, la question qui se pose, même si c'est un peu prématuré du fait que le train continue jusqu'au 25 octobre à sillonner la France, c'est quid d'après ? Est-ce qu'il y a déjà des perspectives ? Cette exposition qui est confinée aujourd'hui dans le train, va-t-elle y rester ou en sortir, avoir des prolongements quelconques pour continuer justement à toucher le grand public ?
Alors je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect messager du climat. C'est-à-dire qu'il y a cette dynamique qui a été créée dans la communauté de recherche en sciences du climat et au sens très large. Qu'est-ce qu'on fait de cette dynamique? Ça, c'est une première question. Il y a l'exposition, je dirais, dans le temps immédiat. Alors, il y a la COP, donc en décembre. Donc, l'enjeu, c'est de transposer l'exposition, et c'est ce sur quoi on a commencé à travailler. Donc, pour que l'exposition soit présentée sous une forme améliorée, puisqu'on ne sera plus dans un train, mais dans le cadre au Grand Palais pendant la COP, avec des rencontres avec les chercheurs. Et là, je suis en train de recevoir des propositions de faire tourner l'exposition dans toute la France sous d'autres formes. Certains proposent ce qu'on appelle un roadshow, d'autres, c'est-à-dire que de profiter de cette dynamique fabuleuse, parce que c'est une dynamique fabuleuse qui a été créée dans le train. Là, il y a quelqu'un de la mairie de Montpellier qui est venu me voir en me disant « mais il faut absolument qu'on ait après cette exposition à Montpellier ». Pour la COP, nous avons lancé un concours avec un partenaire qui donc sont les éditions Belin, Le Pommier et Pour la Science. Donc comment je m'engage pour le climat, ça s'appelle, et donc jusqu'au 25 octobre, à partir de 15 ans, on peut répondre à cette question sous différentes formes. Et le prix sera remis pendant la COP. C'est-à-dire que c'est un ensemble de petits gestes, on va dire, qui vont nous conduire jusqu'à la COP et voir comment, à partir de 2016, on continue cette dynamique sur l'ensemble du territoire.
Mais est-ce que, oui, il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, il y a à peu près entre 1000 et 1200 visiteurs par jour, ce qui est quand même relativement impressionnant du fait de l'espace qui est quand même limité, est assez confiné même.
Jusqu'à 1500. Mmh. On a eu 1500 la première semaine par jour, ce qui est beaucoup.
Frédéric Simard, est-ce que justement, pour vous, cette exposition doit se trouver prolongée d'une façon ou d'une autre, sous une forme ou une autre, et peut-être inspirer aussi d'autres expositions de par la démarche qui est originale, qui n'est pas celle d'une exposition classique où finalement, comme le disait Béatrice Cork tout à l'heure, le visiteur est un peu laissé à lui-même, même si la scénographie a été particulièrement étudiée, c'est pas le même parcours.
Oui, tout à fait. C'est totalement original, c'est extrêmement prometteur. Moi, je trouve le concept vraiment, vraiment bien d'aller au contact des gens. Et j'attendrai avec impatience les retours sur justement ce train du climat, voir un peu ce que mes collègues en auront pensé et le feedback qu'ils auront eu de tout le public, que ça soit des élus comme on vient d'en parler, mais aussi ça va être intéressant d'avoir un suivi auprès des lycéens ou des gens comme ça, parce que c'est vraiment eux qui vont construire notre monde de demain. Et effectivement, moi, je serais tout à fait partant pour continuer sur ce train-là, justement. Et on a tout un tas d'objectifs, tout un tas de sujets de recherche qui pourraient être intéressants à développer avec cette approche-là.
Très bien, mais merci beaucoup. Ce sont les mots de la fin pour ce débat d'aujourd'hui de Sciences Publiques. Merci à Christophe Cassou, Catherine Jandel, Béatrice Cork, Serge Planton et Frédéric Simard d'y avoir participé. Sur le site de Sciences Publiques, vous trouverez un lien avec le site des messagers du climat ainsi qu'une vidéo réalisée pendant l'inauguration du train du climat le 6 octobre 2015. Vous trouverez également les références d'ouvrages publiés en amont de la COP21, dont celui de l'un des messagers du climat, Éric Guillardy. Ce livre intitulé « Que feriez-vous si vous saviez ? Des climatologues face à la désinformation » est écrit avec Catherine Guillardy. Il vient d'être publié le 13 octobre aux éditions Le Pommier. Comme toutes les émissions de Culture Science, vous pouvez réécouter Science Publique pendant 1000 jours, la podcaster pendant un an, sans oublier bien entendu de nous faire part de vos réactions et commentaires. La semaine prochaine, vendredi 23 octobre, Science Publique participera à la semaine thématique des émissions de Culture Science sur le nucléaire à l'occasion des 70 ans du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA. Nous débattrons la question de la compatibilité entre l'électricité nucléaire et le développement des énergies renouvelables. Une question doublement d'actualité, donc avec la loi sur la transition énergétique et la perspective de la COP21 dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui. Sciences Publiques, Vincent Abouchard, Isabelle Alibert, Bernard Delfieux qui nous ont accueillis à France Bleu Hérault, Marie Dalquier, Michel Alberganti. Nous vous laissons en compagnie des Bonnes Feuilles. Merci à tous et excellent après-midi sur France Culture.